m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Nous vous disons à vous tous bonjour et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. La SNCC a enregistré deux cas de déraillement de trains marchandises en avril dernier. Cette affaire a suscité beaucoup d'appréhension et des débats sur les redressements de cette entreprise congolaise de chemin de fer et l'épineuse question sur la réhabilitation et construction des voies ferrées à travers la RDC. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière l'acquisition prochaine de 18 locomotives neuves dans le cadre du redressement de la Société nationale des chemins de fer du Congo et l'achat de 3 locomotives pour exploitation à la Société congolaise des transports publics SNCC. Pensez-vous que ces efforts menés ça et là contribueront à l'amélioration de l'exploitation ferroviaire à travers le pays? Nous en parlons, vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de nous appeler au 081 890 63 15. Noël Aluzitou est à la réalisation, Paul Badianyam à la mise en onde, J.R. Nguembo à la coordination et à la présentation de ce programme supervisé par Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio Lems Kamonia, directeur de cabinet adjoint au ministère de Transport et voie des communications. Bonjour Monsieur Lems.
Bonjour Monsieur Gilles.
C'est toujours un grand plaisir de vous avoir comme invité dans notre émission Parole aux auditeurs. Et aujourd'hui, merci surtout d'avoir fait les déplacements de ce studio.
Merci, c'est un plaisir de partager.
Voilà, alors quels sont d'entrée de jeu les résultats de l'enquête menée pour établir les responsabilités sur les cas de déraillement enregistrés, disons, au mois d'avril?
Oui, merci pour votre question. Je pense que la semaine dernière, le ministre des Transports et Voies des Communications avait convié la presse tant nationale qu'internationale à un point de presse qu'il avait organisé pour rendre public les résultats des enquêtes sur les doubles déraillements qui intervenaient à la SNCC les 22 avril et les 4 mai de cette année. Et surtout pour les premiers déraillements qui avaient fait 136 morts et 189 blessés, plusieurs dégâts matériels, alors que les deuxièmes déraillements avaient fait seulement 5 morts et 5 blessés. Alors, à la suite de ces deux déraillements, il y avait plusieurs missions d'enquête qui avaient été diligentées sur les lieux de ces déraillements, et ces missions d'enquête étaient indépendantes. Alors, quand ces différentes missions d'enquête ont rendu leur rapport, ces rapports ont été communiqués au ministre des Transports et Voies des Communications, qui a constaté que l'ensemble de ces rapports aboutissait à la même conclusion, qu'il s'agissait d'une erreur humaine au moment de la survenance de ces deux déraillements. Et que, à la suite de ces erreurs, vous savez, pour le premier déraillement, toute l'équipe de conduite, sauf un aide conducteur qui était rescapé, tous étaient morts dans ces déraillements. Pour le deuxième déraillement, comme les conducteurs étaient encore en vie, ils ont non seulement été suspendus au niveau de la SNCC, ils ont aussi été déférés devant la justice. Alors, je crois qu'au cours de ces points de presse, de manière technique, avec des éléments assez élaborés, on a communiqué exactement les circonstances précises de ces tragiques déraillements qui a causé beaucoup de morts et pour lesquels nous continuons à déplorer.
Oui, mais aujourd'hui, parmi la conduite qui a été responsabilisée, on cite quand même le nom de quelqu'un qui est très chevronné, qui a fait longtemps à la SNCC, qui a fait de l'expérience, et d'aucuns, au fait, s'imaginent qu'une telle erreur ne pouvait pas provenir de ces messieurs.
Oui, bien, vous savez, je crois que c'est une question assez importante. Les messieurs étaient chevronnés, nous les connaissons, très qualifiés. D'ailleurs, c'était un machiniste instructeur, donc qui forme les autres conducteurs. Mais quand il y a déraillement, ce n'est pas à vous ni à moi de donner un quelconque pronostic. Je crois qu'il faut mener des enquêtes techniques. Et je crois que ce qu'il faut saluer, c'est que le ministre des Transports et des Communications, au moment où il y avait déraillement, il avait communiqué les bilans provisoires et avait promis de rendre public les résultats des enquêtes. Et ces résultats ont été menés par des spécialistes qui ont passé en revue toutes les hypothèses. Est-ce que c'était une dérive? Est-ce que c'était l'emballement de la locomotive? Est-ce que c'était la faute de la voie? Est-ce que c'était l'erreur humaine? Je crois que les différentes équipes qui étaient sur terrain, après avoir passé en revue les différentes hypothèses, D'abord, on constate que la voie, c'était une très bonne voie. C'était d'ailleurs la section où, de la SNCC où la voie est la plus fiable possible, parce que la vitesse peut atteindre jusqu'à 52 km à l'heure. Et ensuite, on a constaté que la voie n'était pas un problème. Ensuite, on est passé pour voir, est-ce qu'il y avait un emballement? Ces hypothèses ont été rejetées. Est-ce qu'il y avait des nouvelles locomotives? Les hypothèses ont été rejetées. Pour aboutir enfin à établir qu'il y avait erreur humaine. Et pourquoi ils ont établi ces rapports? Parce que cette machine-là, c'était au fait une des meilleures locomotives, les dernières acquisitions des locomotives reconditionnées, qui a tout un ensemble d'équipements de bord qui permettent aussi, avec leurs enregistreuses, de vous révéler ce qui s'est passé, le déroulement normal du fonctionnement de la locomotive. Donc on a vu par exemple qu'il aurait utilisé l'arrêt d'urgence en réserve, qu'il aurait utilisé un mauvais robinet, voilà, il y avait un problème de vitesse. Donc ça, ce n'est pas ni moi, ni le ministre qui l'a dit, mais c'est les spécialistes qui ont été sur terrain, qui ont fait les constats, qui ont fait parler les équipements de conduite de la machine et ont abouti à ces résultats.
Mais il est secret pour personne, M. Lems, aujourd'hui, que l'état de nos voies ferrées laisse encore à désirer. Ça date pratiquement de l'époque coloniale. Et puis, il y a cette vétusté de ces voies qui pourrait aussi être une des causes.
On ne refuse pas. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on l'a expliqué dernièrement. Vous connaissez à la SNCC, parce que ici, ces déraillements, si ça susciter l'intérêt et réveiller l'intention des gens, c'est parce qu'il y a eu mort d'homme que nous déplorons et que nous regrettons amèrement. Mais vous savez qu'à la SNCC, chaque mois, il y a en moyenne 45 déraillements, chaque mois, parce que la voie ferrée est dans un mauvais état. La vitesse commerciale sur les réseaux SNCC est de 13 km à l'heure. De passer cette vitesse-là, vous déraillez. Et en moyenne, chaque jour, on dégage une moyenne de 1,5 à 2 déraillements par jour à la SNCC. Imaginez-vous une société qui arrive à faire 50 déraillements par mois, 44 déraillements par mois. C'est-à-dire, la voie est dans un très mauvais état. En réalité, 70 à 80% du long réseau ferroviaire de la SNCC qui compte 3641 km est appelé à être renouvelé complètement.
Voilà, on va passer au standard pour prendre les auditeurs, mais permettez-nous quand même aujourd'hui de nous faire une idée sur le programme lancé par le gouvernement pour réhabiliter ces voies ferrées. Où en est-on et qu'en est-il au juste?
Bien sûr, ça c'est une question importante. Vous savez, la SNCC c'est une province, c'est une société dont les réseaux ferroviaires, lacustres et même fluviales impactent cette province du pays. C'est à juste titre qu'on l'appelle comme pine dorsale de l'économie congolaise. Alors, vous savez, pour une telle société qui a une importance économique stratégique pour la mobilité des personnes et des marchandises, c'est une société qui ne peut pas être délaissée. C'est pourquoi elle est toujours au centre de l'attention du gouvernement. Et comme les chemins de fer, c'est des équipements lourds, c'est des voies de communication, c'est des locomotives qui coûtent lourd, qui demandent beaucoup d'argent, et compte tenu de la modicité de nos moyens financiers, le gouvernement avait commencé par négocier avec la Banque mondiale et on a mis en place depuis 2010 ce qu'on appelle le programme de transport multimodal qui a apporté 219 millions de dollars à la SNCC au titre du PTM 1. Et ensuite, au mois de juin de l'année dernière, on a approuvé encore un financement additionnel pour ce programme de 180 millions. Donc dans l'ensemble, près de 400 millions ont été mobilisés par la Banque mondiale pour arriver à voir dans quelle mesure procéder au redressement de la SNCC. Alors ce programme, c'est un programme qui est cofinancé à la fois par la Banque mondiale et les gouvernements. Le gouvernement n'est pas resté en reste. Alors lui aussi, le gouvernement devrait en principe apporter 350 millions, dont 200 millions devraient provenir de financement chinois. Voilà, comme la contrepartie. Malheureusement, la contrepartie chinoise n'a pas suivi, mais le gouvernement continue, au moment où les trésors publics est soulagé, de faire quand même des interventions à la SNCC. Ces interventions passent notamment par l'acquisition de locomotives, vous en avez parlé. D'abord, c'était des locomotives reconditionnées. Maintenant, il y a des locomotives neuves que le gouvernement va acheter. C'est parfois aussi l'intervention dans la paye des salaires. Le gouvernement est intervenu aussi pour que les retraités de la SNCC, que la contrepartie soit libérée pour que ces gens qui ont rendu des loyaux services à la société, à la nation, sortent de manière assez digne. Donc, il y a ces interventions qui sont faites. Mais, comme vous le savez
donc,
bien,
à ce jour, l'hypothèse de la liquidation de l'entreprise
totalement écartée. Elle n'existe même pas au niveau du gouvernement parce que liquider cette société là-bas, tuer carrément la société. Mais les gouvernements réfléchissent sur d'autres financements innovants qu'il faut trouver, et même pas, et pourquoi pas sur les partenariats qu'il faut faire, pourquoi pas avec des opérateurs miniers, pourquoi pas avec d'autres privés ou d'autres sociétés qui sont expérimentées, qui peuvent apporter les financements et prendre un risque d'investissement pour voir dans quelle mesure redresser cette société. C'est un impératif et les gouvernements est décidé de les relever.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Théodore, vous êtes en Boujimaï, Norbert Dibelaï à Kananga, Laguiloa à Kalemi. Théodore, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Vous avez
Merci
la parole.
Merci pour la parole. Je remercie une fois de plus la Radio Capi d'avoir organisé l'émission plus précisément sur la SNCC. Nous revenons encore sur ce sujet en ce qui concerne l'achat des locomotives neuves. Selon les informations à notre possession, la SNCC bénéficie de la part du gouvernement d'une nouvelle locomotive, mais ce que nous pourrons demander au ministre des Transports et Communications, c'est d'entretenir les rails en remplaçant les outillages nécessaires dans chaque gare. Il faut aussi organiser les séminaires de formation pour les machinistes qualifiés et éviter l'encombrement des locomotives dans un gare comme par exemple la Kamina. Il y a tout un système. Donc on freine les wagons de marchandises, les trains marchandises, ce système de freinage des trains marchandises dans cette gare, une façon de favoriser la correction à grande échelle pour l'évacuation rapide de ces trains. Entre autres, nous constatons il y a des lois. Il y a des lois de produits avariés, produits expirés. Ici, sur place, on est en train de brûler des histoires avariées, expirées. Et cela est causé par le retard qui se manifeste à Kamina. C'est ce que nous demandons au ministre de ne pas encombrer des locomotives et des trains dans des gares. Il faut chaque fois qu'on évacue ces produits afin de permettre que la voie, le rail, soit vraiment libéré. Voilà un peu ma participation. Je demande au gouvernement de le faire pour favoriser les marchandises.
Voilà, merci beaucoup Théodore d'avoir participé à cette émission. Et puis, vous avez reconnu comme nous l'état vétuste de voies ferrées en RDC. Il faut un entretien et aussi pour résoudre les problèmes d'accidents récurrents au niveau de la SNCC, vous préconisez le renforcement des capacités de machinistes et tant d'autres solutions. Merci beaucoup Théodore. Norbert Dibelaï, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour J.R. Ngembo, bonjour Radio Capi.
Alors j'ai dit, oui Norbert, voilà Norbert, je disais tout à l'heure que le gouvernement a annoncé la semaine dernière l'acquisition prochaine de 18 locomotives neuves dans le cadre du redressement de la Société Nationale du Chemin de Fer du Congo et l'achat de 3 locomotives pour exploitation à la Société Congolaise des Transports Publics, STP. Alors pensez-vous que ces efforts menés, ça et là, contribueront à l'amélioration de réseaux ferroviaires à travers le pays?
Oui, hier. Moi, je voudrais résumer mon intervention en trois petits points. Les premiers, au niveau de la traçabilité au sein de la société SNCC, la traçabilité au niveau de cette entreprise. Nous voulons un peu résumer. Nous ne devons pas aussi oublier que dernièrement, nous avons reçu 218 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Mais est-ce que aujourd'hui, monsieur le ministre, peut nous donner le résumé. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Parce qu'aujourd'hui, les travailleurs restent impayés, l'état de la voie ferrée au Congo est critique et laisse à désirer. Aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement nous contenter de ces 3 locomotives. Nous ne devons pas nous frotter le nez non plus. Vous, à l'époque de Mobutu, la SNCC comptait 120 locomotives. Et Mobutu ne se payait jamais le luxe de passer à la télévision pour se frotter les mains, pour dire écoutez, pour faire des tapages. Non. C'est ça d'ailleurs leur mission, c'est ça qu'ils devraient normalement faire. Mais ici, il se pose un problème. Le financement que nous recevons de la part de nos partenaires, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et ici, il faut aussi dire que la responsabilité doit être partagée. D'une part, par ceux qui donnent, n'est-ce pas, des dons, ceux qui donnent des appuis. Je voudrais parler ici de la Banque mondiale, et la responsabilité doit aussi être partagée de la part du gouvernement, c'est-à-dire ceux qui doivent gérer ceux qui reçoivent, ceux qui reçoivent ces dons. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu que Radio Kapi invite un jour les représentants de la base
Norbert, on va donner aussi sa version.
J'ai comme l'impression qu'il y a une opération retour.
Oui.
L'argent qu'on donne, on ne voit pas clair. C'est ça le problème, JR.
Oui, c'est vrai. Vous avez posé un problème de 218 millions. Je crois que Lems Kamonia, qui est notre invité, il est vraiment un interlocuteur attitré pour nous éclairer là-dessus. C'est vrai que vous regrettez une chose. Hein. Les Congolais, nous n'avons pas la culture des redditions des comptes. Aujourd'hui, les bailleurs des fonds ont donné, ils ont mis des moyens pour qu'on puisse, en fait, travailler dans le sens de redressement de cette entreprise. Le résultat pour vous, en tout cas sur le terrain, n'est pas celui escompté. Vous aimeriez bien que qu'on puisse aller très loin. Les 18 locomotives par rapport aux 120 qu'on avait peut-être en Deuxième République, ça ne représente absolument rien pour vous. Merci beaucoup Norbert. Laguilois, vous êtes à Kalemie, bonjour.
Bonjour Gilles Mungembo, bonjour à l'invité et à tous les invités de la Radio Kapi.
Voilà, alors pensez-vous que les efforts menés pour redresser la SNCC et aussi remettre à l'exploitation la société nationale, disons la société congolaise de transport public, qui gère aussi une partie des voies ferrées en République démocratique du Congo, contribuera donc à l'amélioration du réseau ferroviaire à travers le pays?
Oui, merci. J'ai salué un peu la Radio Kapi du fait d'affranger un peu d'intégrer cette émission. Le débat du jour est très intéressant. Les efforts dont le gouvernement congolais est en train de faire, je pense, ça peut...
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de la Guilois, Kalemi. Bon, voilà, on va le relancer. Le temps de prendre Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent à Kinshasa et partout à travers la ville-province de Kinshasa.
Gilles, permettez, est-ce que je peux exprimer une préoccupation juste de l'émission avant que j'aborde le sujet?
Allez-y.
Alors, en fait, je constate depuis un certain moment qu'il est vraiment difficile de vous avoir par voie des téléphones, par des appels. Je constate comme si les ceux qui réservent leur participation à l'émission par voie internet sont plus privilégiés. Et vous appeler au téléphone devient vraiment un peu compliqué. Je pense que vous allez un peu revoir cette situation.
Voilà, juste un rappel, il en vaut aussi pour tous ceux qui auront peut-être la même préoccupation. Les sujets, disons, les sujets du débat sont annoncés la veille. Et je crois qu'il y a certains qui prennent déjà rendez-vous ou qui s'enregistrent la veille. Il y a d'autres, peut-être le matin... Ils connaissent bien nos numéros de contact. Ils prennent également leur inscription. Mais voilà, au cours de l'émission, c'est parfois très, très, très difficile de recueillir. Et au même moment, on fait le filtrage, de passer tous, en tout cas, en ondes. Maurice, je crois que vous êtes un habitué de l'émission. Vous savez comment fonctionnent ces mécanismes, ces dispositifs mis en place pour l'enregistrement en amont et en aval.
Tout à fait. Donc, je pense que c'est une préoccupation par rapport à ceux qui vous appellent souvent par voie de téléphone, qui expriment les mêmes inquiétudes que moi, en fait, entre parenthèses. Bon, je voudrais dire ceci, Gérard Lungembo. Vous savez, je suis tout au début votre invité qui parlait d'une enquête, une enquête indépendante, qui lui-même a qualifié d'indépendante. Nous ne savons pas ce réellement, l'équipe qui a été commise par rapport à cette
enquête. Commission d'enquête, oui.
Oui, à cette commission d'enquête. Nous ne savons pas encore ils sont d'où, ce sont de quelles obédiences. Parce que souvent, on peut parler des enquêtes indépendantes, mais les gens qui sont là sont des gens qui sont soit utilisés par le pouvoir pour nous amener des résultats rapidement, qui vont dans le sens que c'est une erreur humaine à l'origine. Vous savez, lorsqu'il y a perte en vie humaine, comme chez nous ici, vous avez enregistré, nous avions enregistré plus de 140 morts dans le deux trains. Alors, d'abord, ma première préoccupation. Les trains, on a parlé d'un train marchandise. Donc, en temps normal, on devrait normalement s'attendre à une perte juste sur le plan matériel. On devrait juste perdre de marchandises. Mais nous apprenons qu'il y a eu des gens, une centaine, plus de 140. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. Un train marchandise où il y a des raillements et on nous parle des personnes, des individus, des hommes qui ont péri lors de cet accident, lors de ces déraillements. Donc ça relève déjà d'un certain dysfonctionnement. Même aujourd'hui, on peut nous dire qu'il y a eu à l'origine erreur humaine, mais d'où sont venus ces gens, ceux qui sont morts lors de cet accident? Parce que c'est un train marchandise. Voilà d'abord ma première préoccupation. Donc, il faut parler de la responsabilité. Aujourd'hui, même si c'était une erreur humaine, on devait s'attendre à des sanctions directes. Pour raison d'élégance et respect quand même à la vie humaine, on devait quand même sanctionner d'abord directement les responsables. Même les ministres devaient tomber en temps normal dans un pays sérieux. On devait attendre que les ministres devaient d'abord tomber. On le fait la fois passée, nous avions suivi... Madame, je crois, Laure Kawanda, l'ancienne permanente de Palou, hein, lors d'un naufrage, je crois, sur la rivière Kasaï, naufrage d'un bateau, mais cette dame est partie sans d'autres procès. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne l'a pas fait par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, dans ce train, par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, au stade, ceux qui ont perdu la vie? Dans un mois, on perd plus de 500 Congolais.
Oui, dans les accidents,
jusque-là, aujourd'hui, on nous parle des enquêtes et des
oui, Maurice.
Des histoires fantaisistes.
Maurice.
Oui, je vous suis.
Voilà. Est-ce qu'on peut vous poser juste une question de relance aujourd'hui? C'est vrai qu'on a du mal à accepter les rapports établis par les Congolais comme nous. Mais si c'était un rapport qui est écrit par, au fait, une vue de l'extérieur, là, c'est pratiquement accepté rapidement. Bon, pourquoi ne pas faire confiance, par exemple, aux Congolais comme nous après avoir mené des enquêtes et produit des résultats?
Au fait, c'est vraiment une très bonne question, Gérald Ngembo. Si vous avez aujourd'hui que nous avons plus confiance aux rapports qui sont produits par
l'extérieur,
c'est parce que nous voyons les sérieux avec lesquels ces gens-là travaillent. Hein? Vous savez, lorsque on engage, ça c'est pas une histoire politique, où il y a même des tendances, il y a d'obédience. Non, ça c'est une histoire qui concerne la vie des hommes. Hein? Donc dans tous les pays du monde, ce n'est pas seulement ici chez nous au Congo, dans tous les pays du monde, lorsque un drame de cette nature se produit, je pense que on doit d'abord aller même au-delà des clivages politiques et tout ça. Donc on doit faire quand même le travail de manière rationnelle. Donc nous disons ceci, si nous le disons c'est parce que nous sentons que dans tout ce qui se passe, donc c'est dans une période de presque un mois, on a vu des pertes humaines. Hein? J'ai parlé de ce train aujourd'hui dont le sujet est abordé. J'ai parlé de ce qui s'est passé dans les stades ici au niveau de Kinshasa. Mais nous voyons que c'est de la complaisance. Sans parler de ceci, donc même s'il faut remonter un peu l'histoire, vous allez voir que dans les temps les anciens, même les temps les plus récents, vous avez vu que non, il y a eu des accidents, il y a eu des pertes humaines. Mais il n'y a pas vraiment des sanctions exemplaires.
Oui, mais moi je peux quand même vous rappeler, je crois que tous nous avons la mémoire, lorsqu'il y a eu crash de Kinshasa, le ministre honoraire Kuseyo était parti. Nous avons vu, vous avez évoqué également les cas de Kawanda, comme pour dire que quand les rapports sont clairement établis, il y a des responsabilités qui sont partagées. Donc je crois que à ce niveau, il n'y a pas débat.
Mais il y a cette politique de deux poids deux mesures, c'est celle là que nous
voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé de Kinshasa et surtout merci d'avoir contribué à cette émission 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
Lems Kamwania, vous avez suivi cette première série des auditeurs, comment vous réagissez?
Oui, je vais y aller rapidement, d'abord avec ce Théodore qui a appelé de Mbujimaï. D'abord je commence par apporter un petit correctif. Les locomotives qui ont été achetées au niveau de la SNCC, les locomotives neuves, 18, c'est 28 au total, donc 18 sur financement de la Banque mondiale et 10 sur financement du gouvernement. Donc ça, c'est les locomotives neuves, sans compter les locomotives reconditionnées. Et au niveau de la SCTP, donc l'Exonatra, c'est 6 et non 3. Les 3, c'est une première réception, il y a encore 3 autres qui vont représenter les deuxièmes lots. Alors, M. Théodore a parlé de deux choses, l'entretien de la voie, c'est vrai, et aussi les recyclages des machinistes, y compris même l'amélioration même de la gestion de la SNCC, surtout au niveau des camions qui devient un goulot de traitement avec les wagons. Je crois qu'il a tout à fait raison. Ces programmes, ils ne laissent aucun axe, sauf au niveau de la SNCC, peut-être si on fait un rapide rappel historique. Vous savez, la SNCC,
en son temps, il y a, je crois que M. Norbert qui l'a dit, ce n'était pas 120, la SNCC avait atteint un parc de 180 locomotives. Et c'est depuis 1974, ça fait aujourd'hui 40 ans, qu'on n'a pas acheté une seule locomotive à la SNCC. Ça fait 40 ans, les premières acquisitions sont celles du gouvernement. Donc c'est depuis 1974 qu'on a cessé d'acheter des locomotives à la SNCC. Il y avait en son temps plus de 200 voitures à voyageurs et aujourd'hui il n'y en a que 46 dans un mauvais état. Il y avait en son temps plus de 4100 wagons, aujourd'hui c'est environ 1000 wagons à la SNCC. Donc ce qui fait que les parcs matériels de la SNCC, il s'est tellement rétréci que l'entreprise n'est pas en mesure d'organiser des rotations régulières sur l'ensemble de ses lignes et sur l'ensemble de son réseau. C'est des efforts. Et c'est depuis 40 ans que les gouvernements s'élèvent maintenant pour commencer à payer, y compris sur fonds propres. Alors, ce que M. Norbert et M. Théodore a avancé, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on peut entretenir la voie, on peut acheter les locomotives, mais c'est l'homme qui est au centre de tout. Si cet homme n'est pas motivé, si cet homme n'est pas consciencieux, cela risque de poser beaucoup de problèmes. Et dernièrement, on a mis en place, on a nommé un nouvel ADG à la SNCC. Le premier constat qu'il a fait, il s'est dit, attention, il ne faudrait pas que les travailleurs de la SNCC soient les facteurs les plus handicapants. Parce qu'on a constaté que à chaque niveau, il y a beaucoup de fuites. Donc les gens, pour avoir un wagon, il faut corrompre. Pour que les wagons soient alignés comme il est dit, il faut corrompre. Finalement, il y a beaucoup d'argent qui sort, il y a beaucoup de fuites. Et parfois, il y a un désordre organisé au sein des agents. C'est pourquoi dans ces programmes de redressement, il faudrait aussi qu'on envisage dans quelle mesure avoir des agents qui peuvent permettre que la société puisse aller de l'avant. Pas des agents qui pensent d'abord à eux-mêmes sans compter l'intérêt général de la société. Je partage totalement son avis et c'est un axe stratégique qui est en cours de mise en œuvre. Alors, on a parlé de la traçabilité de 218 millions. C'est 219 millions au titre de PTN1. Et j'ai dit, il y a encore 180 millions en plus. Ce qu'on doit dire aux gens, ces montants, ce n'est pas que la Banque mondiale vient verser dans les comptes de l'État congolais cet argent. Non. Les financements apportés par les bailleurs, vous avez les montants, mais ces montants, d'abord, ils ne passent pas par le ministère des Finances, ils n'est pas logé dans les comptes de la Banque centrale du gouvernement, ils n'est pas dépensé sur décision des autorités congolaises. On les appelle ici pré-projets. Vous, avant que la banque ne sorte l'argent, on identifie à l'avance cet argent, chaque dollar, à quoi il sera affecté. C'est déjà pré-affecté. Et la Banque mondiale met en place ce qu'on appelle une unité d'exécution ou une cellule d'exécution de ces projets. Cette cellule dépend directement de la Banque mondiale et au niveau de Washington, vous avez un chargé de projet qui est en train de suivre que cet argent est décaissé conformément à la répartition qui avait été faite à l'occasion de la conclusion à l'occasion de la signature de l'accord. Donc, ce n'est ni le ministre des Transports, ni des Finances, ni le Premier ministre de la Banque centrale qui gère ces montants-là. C'est un montant qui est géré à Washington. D'ailleurs, il y a certains paiements qui sont payés.
Vous avez quand même une idée sur
cette traçabilité. Mais on peut vous dire, la traçabilité existe parce que la Banque mondiale, en plus d'apporter de l'argent, chaque année, elle fait passer des missions d'audit.
C'est ce qui avait permis la réception de locomotives.
Je vais vous expliquer. Sur les 219 millions du PTM1, je crois environ 180 millions sont déjà dépensés. À quoi ils sont dépensés? 80 millions sont partis pour financer les dépenses opérationnelles de la SNCC. Ça va faire 3 ans qu'au niveau de la SNCC, carburant, lubrifiant, donc pièces de rechange, location de certaines locomotives, tout ça c'est payé par la banque. Une moyenne d'environ 2 millions chaque mois, même aujourd'hui. Et ça continue jusqu'à la fin. Sans ça, aucun train ne pourrait circuler. Deuxièmement, 33 millions ont été décaissés pour acheter les locomotives, les 18 locomotives neuves. Et je continue.
Les locomotives que nous avons neuves.
Donc, en dehors des locations, il y a les 33 millions de dollars dépensés pour ces locomotives-là. La Banque mondiale a installé à Lubumbashi une usine qui va fabriquer les traverses pour améliorer la voie. On a acheté 8000 tonnes de rails. On a acheté 17000 traverses métalliques. Donc, la Banque mondiale a aidé à ce que les retraités de la SNCC, près de 5000 personnes, ont été payées avec cet argent. Donc, la traçabilité existe et pour chaque dollar qui a été décaissé, les preuves existent. Parce que ce n'est pas un montant géré par les gouvernements, mais c'est géré par la banque. Donc, qu'il soit vraiment sécurisé. Si ce n'était pas bien géré, pensez-vous que la banque serait encore venue pour vous dire, vous avez détourné 218 millions, on vous donne encore en bonus 180 millions. Non, c'est parce qu'il se rassure que ça s'est fait. Seulement la réalité, par rapport aux besoins de la SNCC, c'est des besoins au minimum, il faut mettre 3 milliards. Je crois que le montant apporté par la banque, c'est autour de 10% des besoins de la SNCC. C'est pourquoi parfois on ne sent pas.
Il a fait une contrepartie avec la part du gouvernement.
Oui, voilà. Oui. Donc je crois que ça, c'est quand même pour répondre à monsieur Norbert. Par rapport à monsieur Maurice, oui. Je crois, ça c'est une question assez essentielle. D'abord, ce n'était pas une seule commission d'enquête. Il y a eu plusieurs commissions d'enquête. La SNCC elle-même, elle a dépêché ses propres experts qui sont descendus sur terrain. Le gouvernement a mis en place une commission d'enquête. Le ministère des Transports, conformément à la réglementation, a envoyé aussi une autre mission d'enquête. Donc, il y a eu plusieurs missions d'enquête qui sont descendues sur le terrain. Comme vous l'avez dit, le plus important, quand il y a un déraillement, c'est vrai, il y a eu des morts que nous déplorons. Vraiment, c'est un tragique événement qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est arriver à situer les responsabilités. Qui est responsable et qui doit répondre à ces actes? Je dois rappeler ici, comme vous l'avez d'ailleurs si bien dit, nos entreprises publiques ont été transformées en sociétés commerciales. C'est-à-dire, on a évité que l'État interfère dans la gestion. Ce que fait l'État aujourd'hui, les gouvernements, les premiers ministres ou les ministres des Transports, c'est juste apporter l'appui. Mais ce qui se passe au sein de la SNCC,
la gestion quotidienne,
ça engage les gestionnaires. C'est ainsi que quand il y a enquête, on doit remonter pour voir c'est quoi les causes qui a posé tel acte qui a conduit à l'accident. Ce sont ces personnes qui doivent être sanctionnées. Heureusement que vous avez bien dit, pour le cas des autres ministres, c'est-à-dire leur responsabilité directe était totalement engagée. Mais aujourd'hui, la responsabilité, c'est à ce niveau-là, parce qu'on a réformé. Ce n'est pas le ministre des Transports qui gère, qui doit aligner des locomotives, qui doit aligner des gens, qui doit savoir dans quelle direction. Donc, je prends le cas du deuxième déraillement. Deuxième déraillement, lui, il parle de pas de sanctions. Je vous dis que pour le deuxième déraillement, l'équipe de conduite, ils ont été arrêtés, révoqués de la SNCC, et ils sont déférés devant la justice, parce que leur responsabilité a été établie. Et ils sont devant la justice. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on a constaté que tout se peut bien passer, mais c'est au niveau de l'équipe de conduite. Alors, leur responsabilité est engagée. Alors, si on dit qu'on n'a pas confiance en ces rapports, peut-être ils peuvent demander à d'autres instances, qu'ils peuvent financer un autre rapport indépendant qui a des résultats. Ils seront communiqués parce que au niveau du ministère des Transports, on pense qu'il faut faire toute la lumière sur ce déraillement parce qu'il n'y a rien à cacher. Maintenant, il pose une question importante. Comment un train marchandise aujourd'hui...
Le rapport entre train marchandise et perte en vie humaine.
Comment on peut expliquer ces dysfonctionnements? C'est ça la réalité. Et c'est un phénomène qui a commencé déjà dans les années 80. Je vous ai dit, en son temps, la SNCC comptait plus de 200 voitures à voyageurs. Aujourd'hui, le parc est de 46 voitures à voyageurs. Imaginez-vous, vous avez un chemin de fer long de 3641 km, avec quatre destinations principales. Les gens doivent aller à Kananga, donc Mouneditou Kananga, Kalemi Tindou, Kolosi Didolo, et de l'autre côté de Kalemi. Combien de voitures voyageurs vous allez engager avec 30? Comment les répartir? Là où la société organisée par semaine, 4 trains, et par mois, 16 trains voyageurs, on commence à en organiser un, au mieux deux. Que va faire la population pour se déplacer? C'est ainsi que la population n'a pas d'autre choix. Quand ils voient un train marchandise, la population prend l'assaut. Et ça, c'est exacerbé aussi bien par les hommes en uniforme que par les agents même de la SNCC qui arrêtent les trains en brousse, ils embarquent ces personnes qu'on appelle clandestins. Voilà, on les appelle des clandestins, aussi des clandestins, mais c'est un phénomène qui a fait longtemps et qui devient des fonds de commerce des hommes en armes et des agents de la SNCC qui tirent profit. C'est ainsi que, quand ça déraille, on s'étonne que cela arrive. C'est pourquoi, à ce niveau-là, les responsabilités doivent être étendues pour voir comment mettre fin à ces systèmes. Parce que la population s'est dit, on n'a pas d'autre alternative, on ne sait pas se déplacer. Et ça, c'est une réalité que nous devons voir en face et qui explique tout ce qui est arrivé.
Voilà, on va repasser à nouveau au standard Monsieur Lems. Il y a Chabani qui est à Kisangani, Lumière à Kolwezi et Olivier à Bounia. Chabani, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, Chabani.
Oui, je voulais m'adresser à l'invité.
Oui, allez-y.
Je voulais dire ceci. Concernant le deuxième déraillement, il a dit que le conducteur est au niveau de la justice. Je voulais d'abord savoir, le conducteur est au niveau de la justice comment? Lui, il ne conduit seulement les trains. Le niveau de notre problème se situe au niveau de l'état des trains et l'état des rails. Monsieur, soyons un peu sérieux. La locomotive achetée là, donc la locomotive qui a fait le
déraillement, le deuxième.
Les locomotives en question sont achetées au niveau de l'Afrique du Sud et c'était déjà utilisé auparavant. L'état des rails aussi n'est pas bon. pour conduire la personne en justice, on voulait conduire soit le directeur de la SNCC, soit même le ministre des Transports. Mais je ne sais pas, parce que la personne n'a pas de soutien, on doit le conduire en justice, c'est parce qu'il n'a pas quelqu'un pour plaider contre lui, pour lui. Est-ce qu'il peut nous expliquer l'arrestation? La personne sera arrêtée, on l'a sacrifiée comme ça pour leurs besoins et leurs intérêts.
Donc vous pensez qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est vrai qu'on a oublié la cible ça allait être peut-être une autre personne. Bon, c'est une question directe, je crois que notre invité
peut répondre rapidement pour nous aider. Je suis vraiment à l'aise pour répondre à cette question. Quand il y a déraillement, on doit établir pour savoir quelle est la cause du déraillement. S'il veut que je lui donne quelques éléments.
C'est comme quand il y a crash.
Voilà.
Toujours,
d'abord, je commence par lui dire ceci. Pour ces déraillements, ce n'est pas les rails parce que ça s'est retrouvé sur la meilleure section, les meilleurs tronçons ferroviaires de la SNCC. Les derniers qui a été réhabilité entre les années 86 et 91. C'est les meilleurs tronçons. Donc, on enlève hypothèse rail. La locomotive à laquelle il fait allusion, la locomotive là pour le deuxième déraillement, elle fonctionne normalement.
Qui résiste s'appelle Matata Pogno.
Qu'on
appelait Matata Pogno.
Parlons-en un peu de ces locomotives Matata Pogno. Elles ont été achetées quand? Ce n'est pas hier. Elles ont été achetées depuis août 2012. Ça fait 20 mois que ces locomotives roulent. Si ce monsieur-là va aujourd'hui à la SNCC, on lui sort les rapports techniques des locomotives, on vous dira que ces deux locomotives, c'est les meilleures qu'il y a dans le parc de la SNCC en termes de puissance et de fiabilité.
C'est pas une des locomotives fabriquées en 48.
Non,
parce qu'il y a un technicien qui n'est pas fabriqué en 48.
C'est des locomotives de 1986 qui ont été reconditionnées. Quand on dit en Afrique du Sud, on ne les ramasse pas dans la rue. C'est des locomotives qui fonctionnent dans les réseaux et on fait une révision complète qu'on appelle reconditionnement et on leur donne 15 ans. Et les agents participent à tous ces processus. Pourquoi le machiniste a été arrêté? D'abord, sur cette rame-là qu'il conduisait, il y avait 5 wagons. Il devrait en avoir 4. Comme nous parlons du clientélisme, il est parti raccorder un cinquième wagon qui ne devrait pas être à cette rame. Et c'est ce wagon-là qui a déraillé. Deuxièmement, on a constaté qu'à ce niveau-là,
Le directeur d'exploitation, il était où, le directeur d'exploitation?
Voilà, sa responsabilité aussi est engagée, parce qu'il est aussi entendu. C'est lui qui l'a, pas exploitation à Kinshasa, mais à Lubumbashi, mais au niveau de Kamina, c'est lui qui aligne les trains, et qui aligne, parce que lui aussi, il a été interpellé. Deuxièmement, sur ces tronçons-là, on vous dit, limite de vitesse, 50 km/h. Ces locomotives Matata, comme on dit, c'est la nouvelle génération, c'est équipé de GPS qui enregistre les niveaux de kilométrage. Quand on interroge les rapports GPS, on constate qu'il a dépassé la vitesse par rapport au panneau qui indique l'limitation de vitesse. Mais dans ces cas-là, on a fait les enquêtes qui sont attestées. Vous allez dire que non, il faut limoger l'AD ou limoger les ministres. Mais en quoi il est responsable? C'est ça la réalité. Il faut que les gens se disent, pour arrêter, il faut d'abord établir les responsabilités.
Voilà, on va prendre Lumière qui est à Colosie. Lumière, bonjour.
Bonjour.
Lumière, parlez un peu fort, là.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité.
Voilà, c'est des états, il y a des efforts qui sont menés du côté du gouvernement pour redresser la SNCC, pour, au fait, remettre sur les rails les locomotives au niveau de la STP. Alors, vous pensez que cela pourrait contribuer vraiment à l'amélioration des réseaux ferroviaires à travers le pays?
Merci beaucoup. Moi, à mon humble avis, je voulais un peu donner une recommandation. Le gouvernement devait d'abord commencer par ranger la voie ferroviaire avant de payer les locomotives. Car ces locomotives qui sont neuves risquent aussi de tuer les peuples congolais. Lorsque la voie ferroviaire n'est pas en bonne et due forme, ça risque aussi d'empathie. Parce que vous avez dit que ce sont les locomotives qui sont neuves.
Merci beaucoup, Lumière. Olivier, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour, Éviter.
Vous avez la parole. Votre point de vue.
Bon, mon point de vue est que nous savons bien que nous prenons l'exemple de Kinshasa. Le ministre avec le ministre des Transports a décidé de remplacer les véhicules qu'on appelait l'esprit des morts. Et quand nous voyons nos locomotives nous reconduire aussi à mort, on risque d'appeler ça l'esprit de la locomotive, l'esprit de la mort. Alors, moi, je voulais demander à l'invité, pourquoi pas installer les systèmes de contrôle technique au niveau de l'INCC?
Vous voulez parler de l'INPP?
Yes.
SNCC, et
pourquoi pas former bien nos chauffeurs, les
machinistes
qui conduisent nos locomotives? appeler même les experts de l'extérieur, ou bien les amener à l'extérieur pour aller suivre leur formation. Si le monsieur le député peut m'aider.
Voilà, donc on revient sur les contrôles techniques et également les renforcements de capacités. Est-ce que dans ce programme-là, il est prévu, dans le partenariat avec la Banque mondiale et tant d'autres partenaires, la formation, le recyclage des machinistes? Parce que c'est cela, comme aujourd'hui les rapports et
les Non seulement le recyclage, c'est le recrutement. Je crois que le ministre a même annoncé qu'on doit recruter 50 nouveaux conducteurs. Vous savez, le pauvre conducteur qui est décédé dans les premiers accidents, il avait 66 ans. C'est parce qu'on n'a pas d'alternative. Aujourd'hui, l'âge moyen à la SNCC varie entre 55 et 60 ans. En principe, selon les normes, il faut que quelqu'un arrête la conduite à 45 ans, tout au plus à 55 ans. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus de 60 ans qui continuent à conduire le locomotive. C'est ainsi que le programme qui est en cours, c'est un programme qui consiste à recruter des nouveaux conducteurs, à les former. Surtout que les locomotives qui seront achetées les nouvelles, elles viennent avec une technologie nouvelle. Mais on doit quand même rassurer l'opinion, et si nous devons les reconnaître, que la SNCC dispose des meilleurs conducteurs qui soient. Sauf pour des raisons ou d'autres, les hommes avec tout ce qu'ils ont, parfois faute de recyclage ou autre, il peut y avoir des cas où ils sont responsables. Par rapport au contrôle, je vais lui dire ceci. Une locomotive, ce n'est pas comme une voiture. Même là, la locomotive qui a déraillé, dans chaque gare centrale, il y a ce qu'on appelle les dépôts diesel. C'est ça, les garages. Donc, avant qu'on aligne une locomotive sur les réseaux, d'abord, elle passe au contrôle. On doit vérifier la pression d'huile, on doit vérifier le moteur de traction, on doit faire toutes les vérifications. Et il y a un rapport qui atteste que non, cette locomotive a été vérifiée et elle peut être lancée sur les réseaux. C'est tout à fait différent. Au moment de l'achat, il y a toujours un certificat de contrôle technique qui est émis par un organisme de certification. Parmi ces organismes, par exemple, on peut citer la BIVAC, qui est en Afrique du Sud, qui certifie. Donc, de ce côté-là, s'il y a des faiblesses, peut-être c'est au niveau des garages de la SNCC. Est-ce que les personnes qui font le contrôle des locomotives avant qu'elles ne soient lancées sur les réseaux ont-ils fait leur travail convenablement ou ont-ils les capacités pour le faire? Je crois que là aussi c'est un niveau important où il faut arriver à contrôler. Oui.
Voilà, on va prendre Gustave Moukoko qui est en Belgique. Moukoko, bonjour. Gustave, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Gustave. Le temps de prendre d'abord Lucien qui est à Matadi. Lucien, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gire.
Vous avez la parole, Lucien.
Ah oui, bon. Moi, je voudrais d'abord par rapport à l'attitude de l'invité. Moi, je crois que dans des tels débats, on doit être ni contre et ni pour. Mais il faut que nous puissions nous asseoir sur des responsabilités. Vous savez, lorsque vous lisez même ces rapports, mais chers journalistes, je crois pendant que tout le monde sait que les premiers responsables pour ça, c'est notre gouvernement. Que ça soit direct ou indirectement, notre gouvernement est responsable.
Voilà, Lucien, vous allez poursuivre. Ben, il faut quand même noter que notre invité, c'est un modérateur, il oriente vos préoccupations, n'est-ce pas? Il ne peut que, c'est vrai, il ne doit pas être jugé parti, mais sur le plan technique, parce que il représente les gouvernements dans cette émission, s'il y a des choses que vous n'appréciez pas, bon, je crois que c'est raison pour laquelle on fait les débats. Donc, voilà.
Je m'incline. Moi, je crois. Les rapports d'abord n'a pas un caractère fiable. Pourquoi, dans tout cet accident-là, on doit condamner les simples machinistes? Même notre gouvernement doit un peu se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Parce que si tout cela arrive, je ne pense pas que ces machinistes, c'est lui qui a inventé la révolution de la modernité. Non, c'est au gouvernement. C'est lui qui nous a mené dans toutes ces choses que nous devons nous révolutionner. Nous devons nous révolutionner avec des voies qui sont archaïques, avec des engins qui ne sont pas dignes de circuler dans de telles voies. Non, nous sommes quand même une nation. Moi, je crois, et là où je condamne l'invité, lorsqu'il a commencé, il a dit, avec le premier accident, il y a eu plusieurs morts. Le deuxième accident, il dit, c'est seulement 5 morts. Mais il faut un peu du respect aux morts. 5, c'est trop. C'est beaucoup.
Merci beaucoup, Lucien.
C'est ce qui nous manque. C'est ce que nous devons faire, c'est de changer. Mais je crois que le gouvernement, c'est lui qui est le premier responsable. Et s'il veut qu'il puisse nous amener dans une autre orientation, il doit d'abord accepter accepter que je suis coupable. C'est quand même...
Alors Lucien, nous permettons quand même de réagir, parce qu'en ce moment, avec la réforme des entreprises, la transformation des entreprises, on sait maintenant comment les choses se passent au niveau des entreprises, mais je crois qu'au niveau de la gestion quotidienne, il y a certains ministères qui sont un peu déconnectés par rapport au fonctionnement de ces entreprises. Donc on va prendre Gustave, avant de revenir à vous, Monsieur Lems. Gustave, vous êtes en Belgique, bonjour. Voilà, Gustave, vous êtes avec nous?
Bonjour, bonjour.
Alors, voilà, on comprend un peu la distance.
Merci pour l'occasion que vous me donnez. Allô?
Oui, Gustave, allez-y.
Allô?
Allô?
Oui, en fait, je disais, merci pour l'occasion que vous me donnez. Je pense que j'avais déjà réagi à l'article en ligne, mais l'occasion faisant les larrons, je profite de l'occasion pour avoir quelques précisions, comme il y a déjà l'invité qui peut répondre à ces préoccupations-là. Mmh. On ne remet pas en cause... Alors, est-ce que vous me suivez?
On vous suit 5 sur 5, Gustave.
Oui, je disais, nous ne remettons pas en cause le rapport qui ont été établis. Le grand problème, c'est que quand le rapport doit se limiter à nous dire il s'agit d'une erreur humaine et on s'arrête par là, ça c'est trop grave. Que ce soit une erreur humaine, mais il s'agit d'un train marchandise. Comment les personnes se sont retrouvées sur un train marchandise? Je pense pour ma part que les responsabilités doivent être établies. On doit remonter, même jusqu'au niveau des inspecteurs, au niveau des agents de Corsu, on peut aller même jusqu'au niveau du directeur d'exploitation, et même un peu plus haut. On ne doit pas se limiter en nous disant qu'il s'agit d'une erreur humaine et on s'arrête là. Et des deux, c'est une très bonne chose que l'on puisse commander les locomotives. Nous avions déjà posé la question de savoir en ligne ces locomotives vont rouler où. Et ici, moi, je voulais avoir profité de l'occasion pour demander à monsieur le directeur qui est là, qui peut nous dire, est-ce qu'il y a un planning qui est déjà établi, un projet qui est déjà établi pour la réhabilitation de la voie ferrée? Si oui, ça commence quand? Ça va prendre quelle échéance, quelle durée, quel temps? Et on va commencer par où?
Merci beaucoup.
S'agissant de recyclage,
oui.
On nous parle que de recyclage de machinistes. Moi, je pense qu'au niveau de la SNCC, tout est à recycler. Les inspecteurs, les agents des Corsu, il faut recycler tout le monde. Est-ce qu'il y a déjà un programme pour ça? Et si le programme existe, quelle est l'échéance? Quelles sont les échéances du taux?
Voilà, merci beaucoup.
Monsieur le directeur qui est présent là, s'il peut nous donner un
peu d'éclairage là-dessus. Voilà, merci beaucoup, Gustave. On va prendre le dernier auditeur qui est Papy. Vous êtes avec nous. Bonjour, Papy.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole, Papy. Vous êtes à Béni.
Je voudrais d'abord signaler que c'est à la 15 minutes que j'ai suivi l'émission parce que l'émission s'est passée d'une manière entrecoupée ici à Béni.
Mm-hmm.
Alors, je ne sais pas si les autres auditeurs ont déjà abordé le sujet comme moi je le souhaitais.
Bah,
mais la question que je voudrais poser à l'invité, c'est laquelle? Comme l'erreur était humaine, et la personne est déjà arrêtée au niveau de la justice, au cas où sa responsabilité serait établie, qui va maintenant dédommager les personnes qui ont péri dans les trains? Mais également, la deuxième question, est-ce que c'est la personne qui représente le ministère des Transports dans les studios, est-ce qu'après avoir établi les rapports, est-ce que lui, comme il est là, il représente le ministère des
Transports et voies de communication.
Des transports. Est-ce qu'il ne se reproche de rien au vu de ce qui est arrivé aux incidents que nous venons d'enregistrer? Mais, et la troisième question que je me pose également, c'est celle de savoir, est-ce que quand il nous dit que le machiniste avait ajouté un cinquième wagon,
mm-hmm.
est-ce qu'il n'y a pas un délégué technique au sein de la SNCC qui représente le ministère des Transcom? Il y a ces trois questions auxquelles je voudrais trouver
de
la lumière ou des réponses convaincantes.
Merci beaucoup, Papy. 081-890-63-15 pour votre participation en direct. Et vous avez également la possibilité, chaque fois qu'il y a des thématiques à débattre, de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
privé, deux jours d'exception au rythme du jazz à Kinshasa, les 31 mai et 1er juin au Théâtre de Verdure avec la 8e édition du festival Jazzif. À cette occasion, nous célébrerons tous ensemble les 20 ans de carrière de Lokua Kanza et fêterons le jazz avec aussi Richard Bonnard, Jean Gobal, Sarah Tavares et bien d'autres. Des concerts à retrouver prochainement sur Radio Capi. Pour toute réservation de billets à ce festival, appelez le 081 059 98 88 ou allez sur www.jazzif.com.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs qui vous accordent la parole. Nous avons, disons, dans ces studios, l'EMS Camoignan qui venait de suivre une longue série des auditeurs tout à l'heure. Alors, comment orientez-vous les préoccupations des uns et des autres, Monsieur l'EMS?
Oui, voilà. Je commence par Monsieur Lucien qui est à Matadi qui a demandé la responsabilité du gouvernement. C'est vrai, si nous parlons de ce qui est arrivé à la SNCC, SNCC en tant que... D'abord une entreprise publique, aujourd'hui on la considère comme une entreprise du portefeuille, quand bien même elle a maintenant un statut d'une société commerciale, mais ça reste en définitive une entreprise de l'État. Tout à l'heure j'ai reconnu que ça fait 40 ans qu'on n'a pas investi dans la SNCC. Tout était en train de mourir. Depuis 1974-74, on n'a pas acheté locomotive, on n'a pas acheté voiture à voyageurs, on n'a pas acheté wagon, on a laissé la voie se détériorer. En réalité, la SNCC serait déjà... déclarer société en faillite. Si on n'a pas voulu déclarer en faillite, parce que comme je l'ai dit au début, c'est une société qui impacte cette province, qui est considérée comme l'épine dorsale de l'économie, il faut tout faire pour la réveiller. Donc c'est un cadavre que nous refusons d'enterrer, que nous voulons vraiment ressusciter parce qu'on s'est dit elle doit continuer à vivre. Des choses pareilles, quand ça arrive, ça doit nous interpeller pour que la responsabilité, non seulement du gouvernement, donc de l'État, dans tous ceux qui ont eu à gérer cette société, de près ou de loin, l'État même qui devrait y mettre les moyens, on a failli pendant un certain moment. Maintenant, aujourd'hui, on a les choix. Est-ce qu'on dit, nous fermons la SNCC, qu'est-ce que nous offrons comme alternative, ou nous disons, nous pouvons tenter de la réanimer, c'est ça même le but de l'émission, en disant, il y a eu des erreurs dans le passé, mais que le gouvernement ne fasse pas comme par le passé, pendant 40 ans, on a laissé cette société mourir à petit feu. Commençons petit à petit à voir dans quelle mesure la réanimer pour qu'elle revive. C'est vrai que ce chemin est long. Comme je l'ai dit, ce n'est pas avec plaisir qu'on dit qu'il y a 50 déraillements. Ce n'est pas avec plaisir qu'on dit qu'il y a 40 déraillements. Même un gestionnaire, tu es dans une société par mois, tu dois faire face à 50 déraillements. Ça a un coût. Tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas être performant. Je crois qu'on essaie tant bien que mal de voir comment réanimer parce qu'on n'a pas d'autre alternative pour le faire. Je crois que la responsabilité de l'État ne peut pas être éludée. C'est une réalité parce que pendant plus de 40 ans, on n'a rien fait. Et c'est aujourd'hui que le gouvernement s'est dit, il faut arriver à faire quelque chose. Voilà. Donc ça, je crois que ça doit être clair. Et aussi, je m'en excuse parce que pour nous, la vie humaine a un prix. Si par malheur, j'ai dit seulement 5 morts, en tout cas, je m'en excuse, c'est des vies humaines. Perdre même une âme humaine, ça devrait nous interpeller. Sincèrement, au fond de moi, je m'en excuse pour cela. Voilà. Parce qu'on doit avoir du respect pour les morts. Monsieur Gustave, qui est en Belgique, votre réponse et votre première question, vous avez dit erreur humaine. C'est vrai, ça c'est une cause directe du déraillement. Maintenant, quand on regarde tous les autres contours, pourquoi des personnes sur les trains, comment ces personnes prennent d'assaut les
trains, l'état du rail,
l'état. C'est-à-dire, il y a d'autres éléments qu'il faut arriver à, qui sont effectivement dans les rapports, je ne pouvais pas dévoiler tous les contenus des rapports ici, mais la cause directe c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses par rapport aux personnes qui prennent d'assaut, je crois, on venait de répondre à cette question. Comme on n'organise pas de trains voyageurs, les personnes n'ont pas d'autres possibilités, ils prennent d'assaut. Ceux qui ont été sur terrain, ils nous disent qu'ils ont vu des familles entières, avec des enfants qui ont 3 ans, 5 ans, qui étaient à bord de ces trains marchandises. Ils ne payent pas des billets. C'est pourquoi là-bas, on considère ces gens-là comme des clandestins. Et c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Il a commencé depuis les années 80, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, il faudrait que le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, la SNCC, les autorités provinciales, qu'on s'investisse pour arriver à mettre fin à ces phénomènes. Mais pour y mettre fin, il faut organiser les trains voyageurs.
Des rotations
régulières. Il faut
investir
des rotations régulières. C'est tout un programme qui va encore prendre du temps, mais il faut comprendre que c'est des efforts qui doivent être faits. Alors, Les commandes qui sont passées des locomotives, ça va rouler sur quelle voie? Est-ce qu'il y a un programme d'entretien de la voie? Effectivement, il y a un programme d'entretien de la voie. Mais ce programme ne peut pas couvrir l'ensemble du réseau. Parce qu'aujourd'hui, pour entretenir 1 km de voie, c'est entre 800 et 1 million de dollars. Si vous prenez 3000 km, vous arrivez à 3 milliards. Qu'on n'a pas. Ce qui est prévu aujourd'hui, je peux lui dire, il y a déjà les travaux qui ont commencé sur le financement de la banque, parce qu'on a commencé par installer l'usine qui fabrique les traverses. Aujourd'hui, à Lubumbashi, si vous allez, il y a une usine qui fabrique des traverses contre la SNCC. On ne peut plus importer du bloc. Et ensuite, il y a des traverses qui ont été achetées. Des rails ont été commandés. Alors, ça va être un programme qui va prendre beaucoup de temps. Il y a déjà les travaux qui ont déroulé sur la section Baya-Sakanya, qui est une section qui est endommagée. Et il y a tout un programme au niveau de la SNCC pour, par rapport à ça. Mais c'est conforté. Ce n'est pas vraiment ça. Il faut encore trouver d'autres financements, des financements innovants. Bon, le recyclage, on en parle, c'est vrai. Et tout est recyclé, je lui concède. Tout a vieilli et tout est à refaire, mais c'est des efforts de redressement. Qui va dédommager les morts? Les morts, là, si... La plupart des personnes qui étaient mortes, comme ce n'était pas un train voyageur, il y a des gens qu'on n'arrive même pas à identifier des noms, parce qu'il n'y avait pas de manifestes, c'était un train marchandise. Mais c'est une responsabilité qui incombe à l'État. Alors, est-ce que nous nous reprochons de quelque chose? En tant que citoyens congolais, oui, on se reproche. Parce que nous disons que nous tous collectivement, avec l'État, on a failli pour amener notre pays là où il est. Les efforts n'ont pas encore donné leurs résultats. Voilà. Donc, SNCC, pour terminer, c'est une société commerciale. Ce n'est pas quelqu'un du ministère qui est là pour travailler au sein de la SNCC. Voilà. Merci.
Voilà. Lems Kamonia, nous rappelons que vous êtes directeur de cabinet adjoint au ministère des Transports et Voies de Communication. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Allô? 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 Mais, tu ne réponds pas?
Voilà, merci à vous tous qui avez participé à ce débat. Nous aurions bien voulu vous accorder la parole. Chomba, vous êtes à Kindu, Odo à Kamina. Ce n'est qu'une partie remise. Je crois que demain ou après-demain, dans un autre débat, vous aurez à participer dans cette émission. À vous tous également, nous vous disons au revoir et merci à Paul Badianiam qui a assuré la mise en onde de cette émission qui a été réalisée par Noéla Luzitu, présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. À très bientôt.